Vous m'avez attendu longtemps, ça m'ennuie.
Je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Au contraire, ça m'a même arrangé. Il y a longtemps qu'on ne m'avait pas posé de la faim. C'est un mot que j'avais presque oublié. Vous l'avez fait ressurgir du passé, comme d'autres mots qu'on n'entend plus. Par exemple, on n'entend plus jamais le mot « limonade ». Personne ne dit plus « j'ai bu une excellente limonade à midi ». Je pensais à ça en vous attendant, et même quand je ne vous attendais plus, car j'en restais là. Je me disais, si elle vient maintenant, je vais lui parler de limonade, pour voir la tête que vous auriez fait.
Eh bien, ça va pétiller ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Dostoïevski, de Jean Eustache, de couple, de masculin-féminin, de femme-femme et de traiteur. Avec Paul Vecchielli qui réalise Nuit Blanche sur la jetée, un film qui décline une grammaire amoureuse placée sous le signe de Dostoïevski, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un cinéaste dont 8 grands films vont ressortir dans les semaines qui viennent. Un fou de cinéma avec le cœur dans les années 30 et la tête dans la nouvelle vague, c'est lui qui le dit.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme deux films américains, Jupiter, le destin de l'univers, des frères et sœurs Wachowski, et It Follows de David Robert Mitchell. 19h35, plateau Nouvelle Vague avec Julie Duclos qui met en scène Nos Serments, fragment d'un discours amoureux à la fois sur scène et en vidéo, placé sous le signe de Jean Eustache. Lucille Comeau.
Un petit appartement, un trio amoureux, quelques rendez-vous dans des cafés, comme un film des années 60, mais dans un théâtre et sans Jean-Pierre Léo.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de Zoé Sfès que l'on ouvre d'abord avec le son du jour.
Produire, c'est générer de la croissance et de la richesse. Quand vous créez, vous produisez plus de spectacles, vous élargissez énormément le public, puisqu'encore une fois, vous ne faites pas que des reprises, que souvent les gens ne reviennent pas voir deux fois. Vous convainquez les mécènes, vous leur proposez des projets et donc des nouvelles productions. Ce qui est important, c'est l'image que vous donnez en France et à l'étranger de l'Opéra de Paris. Si vous avez les meilleurs chanteurs et beaucoup de nouvelles productions, bah, les regards vont se porter sur l'Opéra de Paris et beaucoup de nos partenaires ont certains doublé, augmenté leur participation.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il est bien frais cette fois.
Il est bien frais, il est du jour puisque c'était aujourd'hui que Stéphane Lissner, nouveau président de l'Opéra de Paris, présentait la saison 2015-2016, sa première saison à la tête de l'Opéra de Paris. Une saison donc où il le dit, malgré la crise, il multiplie les productions. C'est un petit peu à contre-courant de ce que font toutes les autres chefs des maisons d'opéra en Europe. Une programmation avec 20 opéras équitablement répartis entre nouvelles productions et reprises, avec l'intelligentsia de l'art lyrique, donc des vraies têtes d'affiche, Johannes Kaufmann, Anya Arteros, Anna Grebko, Ludovic Tézier, la fine fleur de la baguette, Esa Pekka Salonen, Ingo Metzmacher, Fabio Luisi et des metteurs en scène comme Romeo Castellucci qui n'avait jusque-là jamais travaillé à l'Opéra de Paris.
Et pour ce qui... Ah, la virgule est partie un petit peu trop tôt parce que je voulais dire quelque chose quand même sur le fait que l'Opéra de Paris ce n'est pas que le lyrique, il y a aussi la danse, c'est très important, avec et Benjamin Millepied que l'on recevra vendredi ici, qui a une programmation assez formidable puisqu'un des chorégraphes associés, le chorégraphe associé, ce sera William Forsythe.
Tout à fait.
On continue avec le dossier du jour, un dossier cinéma.
Et oui, puisque la FICAM, la Fédération des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, a livré ses chiffres au début de la semaine et il révèle qu'il y a eu un très net recul des tournages en France en 2014, moins 9% par rapport à l'année dernière. C'est le chiffre le plus bas depuis 5 ans. C'est les films moyens, avec un budget entre 4 et 10 millions d'euros qui sont les plus touchés. Alors, deux questions. Quelles sont les raisons de cette baisse? Et surtout, est-ce que les films vont se tourner ailleurs? Élément de réponse avec Stéphane Baudin, le directeur adjoint de la FICAM.
Disons que c'est la première année, née depuis 2009 à peu près, où on a un repli aussi important en termes de production de films de fiction d'initiative française. On est à moins 9% en nombre de semaines de tournage. On était surtout sur une baisse de la production sur le premier semestre, qui a été particulièrement bas, historiquement bas. Sur le financement, il y a des financements qui sont moins importants, de par notamment la difficulté des distributeurs qui ont été assez durement touchés au cours de l'année. Donc Paris Cochet avec la baisse des budgets au niveau des chaînes de télévision. On a aussi une baisse des engagements en termes de chaînes de télé sur les films. Faut pas oublier aussi qu'on a eu la mise en application de la convention collective. Après, est-ce qu'ils se font ailleurs? C'est vrai qu'en 2012, on a eu un pic de délocalisation à 30%. Aujourd'hui, sur l'année 2014, on se retrouve plutôt autour de 23% en taux de délocalisation.
Voilà, mais la délocalisation reste quand même un problème de fond, même si ce n'est pas particulièrement le cas cette année, qui risque de perdurer, puisque c'est un peu un cercle vicieux. Moins d'investissement dans le cinéma, plus on est tenté d'aller faire les films ailleurs qu'en France, pour qu'ils coûtent moins cher, mais en fait, tout simplement, pour qu'ils se fassent. Cyril Branier est directeur de production, c'est lui qui s'occupe justement de faire des devis pour les films et de s'assurer qu'ils ne dépassent pas leur budget. Écoutez-le.
Vous avez effectivement la délocalisation dite économique, où on va essayer de faire fabriquer le film pour le moins cher possible, encore une fois, parce que le budget a été réduit. Il y a une attractivité financière dans certains pays. Un des exemples de ça, c'est la Belgique. Là, il y a du complément de financement, parce qu'il y a à peu près une espèce de crédit d'impôt d'environ 40%, alors qu'il est 20% probablement en France. Souvent, d'ailleurs, les techniciens français qui voient un peu le film leur échapper en disant « Merde, encore un film qui part en Belgique », se trompent. De toute façon, si le film ne va pas en Belgique, le film ne sera pas. Après, il y a d'autres pays qui offrent de la masse salariale très peu chère. Exemple, la Bulgarie, la Roumanie. Un assistant caméra en Bulgarie, ça coûte à l'employeur 3 fois moins cher qu'un salarié français. Pour des compétences qui commencent à vraiment être similaires. Voilà. Alors ça va être de moins en moins vrai avec le crédit d'impôt qui va être ramené à 30% en 2016.
Voilà, parce que c'est ça la bonne nouvelle. Le CNC a fini par réagir face à ce mouvement de fonds. Et donc, il a débloqué de nouveaux crédits d'impôt qui donc sont de 30% au lieu de 20% aujourd'hui, qui seront donc de 30% en 2016. D'ici là, eh bien, il faudra quand même vivre cette année 2015. Mais qu'on se rassure, elle s'annonce d'ores et déjà meilleure que 2014.
Pendant que vous répondez au téléphone, puisqu'on est en train de vous appeler, Zoé Sfez, peut-être une question à Paul Vecchiali sur ce dossier, puisque vous êtes réalisateur. Vous-même.
Et producteur.
Et producteur, donc doublement.
Et directeur de production.
Et directeur de production.
Et monteur et acteur.
Et tout.
C'est le couteau suisse du cinéma français, Paul Vecchiali.
Non, ce que j'entends là, ça ne me concerne pas vraiment. J'entends des chiffres qui me font hurler de rire. Mais je vais simplement vous raconter une anecdote qui va peut-être...
Mettre les choses au point.
Mettre les choses au point. J'ai parlé un jour à Claude Sauté en lui disant, quand tu tournes 35 semaines, tu as 70 jours de matériel inoccupé. Les week-ends. Nous, à Diagonale, quand on avait du matériel inoccupé, on faisait travailler des courts-métragistes, etc. Et je pense que la famille du cinéma, c'est un mot qui veut absolument rien dire, parce qu'il n'y a pas de circulation entre les réalisateurs et les producteurs. Chacun cherche le meilleur moyen de produire un film, le meilleur moyen de le sortir, mais on ne s'épaule pas les uns les autres, et c'est un peu dommage. Je crois que Jean-Luc Godard faisait ça aussi, il prêtait du matériel, il prêtait de la pellicule. Nous le faisions, nous, à Diagonale. Bon, Diagonale, c'est vieux maintenant, c'est déjà longtemps. Mais je pense très, très sincèrement que aller ailleurs, c'est pas une solution. La solution, c'est préparer en amont beaucoup, de manière à diminuer le temps de tournage. Et ça, c'est une manière de diminuer, évidemment, le budget.
On poursuit avec les brèves de Sfez.
Et l'on ouvre avec le sauvetage de la salle Galaxy d'Amnéville dans la ville en Moselle. C'est l'une des plus grandes salles de concert de France. Elle était en redressement judiciaire. Son plan de sauvetage a été validé aujourd'hui par la justice. Elle va avoir 10 ans pour rembourser ses créanciers grâce à une indemnité débloquée par la ville d'Amnéville.
Deuxième brève,
c'est le Danois Michael Schoenwandt, j'espère que je le dis bien, qui est donc Danois et qui est nommé chef d'orchestre principal à l'Opéra de Montpellier. Ça a été annoncé aujourd'hui pour sa première saison à la tête de l'orchestre. Il assurera la production d'un opéra de 4 concerts et participera à la préparation de la saison artistique. Il a 62 ans, il a dirigé notamment le Philharmonique de Vienne, le Philharmonique de Berlin ou encore celui de Londres, et il récupère un orchestre fragile puisque l'orchestre de Montpellier est en redressement judiciaire depuis décembre dernier.
Eh bien, c'est la dernière.
Alors, la dernière, c'est une histoire un peu mignonne, assez étrange. Elle concerne le chanteur britannique Morrissey, que peut-être vous connaissez. Je ne sais
Paul
pas.
Morrissey.
Paul Morrissey. Qui est donc.
Non, pas Paul Morrissey.
Non, Paul Morrissey, c'est un cinéaste.
C'est un cinéaste. Ah oui,
d'accord.
Morrissey, c'est
le chanteur des Smiths.
Oui,
d'accord.
Je sais même pas où
c'est.
Ah oui,
d'accord.
Voilà. Qui est connu.
Elle n'ose
pour
pas
son...
intervenir quand je dis une connerie.
Qui est connu à la fois pour ses talents musicaux, mais qui est aussi connu parce que c'est un des plus fervents défenseurs de la cause végétarienne, je dirais même végétalienne. Donc il fait souvent des conférences pour PETA, il essaie d'encourager tout le monde à ne plus manger de viande. Et là, il avait donc une assez grande tournée en Europe, tournée notamment qui devait être triomphale en Islande, qui est un petit pays mais qu'il aime beaucoup, et il vient d'annuler son concert en Islande. Pourquoi ? Parce qu'il refuse de se produire dans une salle cannibale, je le cite. Cannibale, car et oui, la salle qui l'accueillait avait aussi dans un coin un petit restaurant qui vend de la viande, qui sert des hamburgers. Il a donc négocié pendant plusieurs mois pour que le restaurant accepte de ne plus servir de viande, au moins pour la semaine qui précède et le soir du concert. Le restaurant, évidemment, a refusé. Et donc, voilà, il annule en disant qu'il est absolument désolé, mais qu'il ne peut se produire devant des cannibales. C'est une annulation qui va lui coûter plusieurs milliers d'euros.
Qu'est-ce qu'en pense Paul Morisset, le cinéaste ? Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Paul Vecchelli ou Julie Duclos ?
Bon, je trouve ça lamentable. Hein.
Bon.
C'est tout. C'est
pas très bien.
Qu'est-ce que traiter de cannibale, bon, c'est à pleurer de rire.
De votre côté, Julie Duclos ?
Oui, non, je trouve ça tellement... C'est très singulier, quoi. Je sais même pas quoi en dire.
Mais il n'y a rien à dire, en effet. Il n'y a rien à dire. On commence tout de suite.
Le rendez-vous.
Que la lumière se fasse ! On ne danse pas dans le noir.
Vous êtes beau, vous savez.
Je vous l'ai dit. Je suis un homme ordinaire.
Peut-être. Alors c'est l'amour qui vous embellit.
Natacha, vous me tourmentez. Je ne peux plus me taire. Il faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Depuis que je vous ai croisé.
Eh bien.
Plateau de nuit avec vous, Paul Vecchelli, cinéaste, producteur, acteur, monteur. Un parcours qui commence au début des années 60 avec des films devenus des classiques. Femme-femme de 74, Corps à cœur en 79, Change pas de main en 75, il y en a eu tant depuis. Une filmographie d'ailleurs qui va faire l'objet d'une rétrospective en salle en deux temps. Il y aura 8 films qui vont ressortir version remasterisée le 11 février prochain. Puis ensuite, la suite, ce sera le 8 juillet. Vous êtes aussi à l'honneur des journées cinématographiques dionysiennes intitulées pour l'occasion Femme-femme. À Saint-Denis. Et la semaine dernière, vous avez sorti votre dernier long métrage, Nuit blanche sur la jetée, qui est un portrait de Dostoïevski, mais à partir de plusieurs de ses textes. Lucille Comeau.
Le film est une série de dialogues nocturnes, comme autant de tableaux. Fédor, c'est Pascal Cerveau, est un promeneur solitaire. Il rencontre sur un petit port du sud de la France une jeune femme, Natacha, c'est Astrid Adverbe, avec qui il discute pendant 4 nuits et qui se dérobe finalement au moment où il croit la saisir.
Le film s'ouvre sur une citation d'André Gide, « Obscurité, tu seras dorénavant pour moi la lumière ». Qu'est-ce que cette phrase a pu déterminer dans le travail sur l'image de ce film qui se passe presque entièrement de nuit ? Ce travail avec toujours votre ingénieur, enfin votre chef opérateur Philippe
Bottiglione. Oui. Respecter la nuit essentiellement et présenter la ville qui l'entoure comme un fantôme, c'est-à-dire que les lumières de la ville sont floues presque constamment. Enfin, elles ne le sont plus, elles ne le sont pas au début, elles ne le sont plus à la fin, naturellement, mais tout le reste du temps, c'est comme ça que c'est fait. Je voudrais juste faire un petit rectificatif sur mon actualité. Va sortir à la fin février 4 films en DVD, savoir Les Russes du Diable et C'est la vie, groupé, et Change pas de main et La Machine.
Ouais.
Que sortent les films La Traverse de Gaël Técher.
D'accord.
Voilà, maintenant, on peut revenir, si vous voulez bien.
Sur le film. Vous jouez vous-même dans le film. Il y a un prologue qui est une discussion entre Fédor, donc joué par Pascal Cerveau, et un vieillard qui va faire apparaître la jeune femme. Et dès le départ, est-ce que vous vous étiez donné ce rôle étrange du vieillard qui annonce l'arrivée de cette femme ?
Alors oui. D'abord, premièrement, dans la nouvelle de Dostoïevski, il y a un vieillard qui existe. Et j'ai pensé que ce serait intéressant que je fasse le rôle de manière à émettre l'hypothèse que Paul Vecchelli, réalisateur, incarnant le vieillard, passe la main à Fédor, qui n'a pas de nom dans la nouvelle d'Dostoïevski, donc pour en faire son porte-parole. Et qui soit, et en même temps, évoqué à travers le carnet du sous-sol, puisque les dialogues entre le vieillard et Pascal sont tirés des carnets du sous-sol, introduire la notion de masochisme et l'éventualité que cette femme n'existe à point.
n'est pas la première fois que vous jouez dans vos films. Est-ce que vous avez pensé un temps à avoir une carrière de comédien, Paul Vecchiali ?
Non, pas du tout. À mes débuts, je me trouvais très mauvais en plus. Maintenant, ça va mieux. Et ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est, dans ma nouvelle conception du cinéma, c'est que finalement, je ne suis plus au-dessus des autres. On est dans la même cour de la création. Et je pense que les acteurs le sentent beaucoup, ça. Ils sentent que aujourd'hui il faut faire ça, mais c'est comme si un copain disait tu devrais faire ça. Voilà. On est un peu au même niveau. Ça m'a toujours préoccupé l'histoire de ne pas être au même niveau que mes techniciens, que mes comédiens. Du reste, à l'époque où je faisais beaucoup de films, je convoquais toujours le directeur photo, l'ingénieur du son, et les comédiens, on faisait une lecture à plat, sans intention aucune, du scénario, ce qui fait qu'on se trouvait sur la même ligne au moment du premier moteur.
Pourquoi il fallait faire une lecture à plat au départ ?
Parce que j'aime pas du tout la psychologie. Même quand j'ai fait à la Comédie Française, la Parisienne, j'ai refusé de faire du travail à la table. J'ai pas du tout envie que les acteurs expliquent aux spectateurs ce qu'ils ont pensé de leur rôle ou de leur personnage.
Julie Duclos, vous qui êtes metteuse en scène, vous comprenez justement cette conception ?
Oui, je comprends. Et puis, c'est toujours. Faudrait toujours s'entendre sur qu'est-ce qu'on met dans psychologie. Mais j'entends très bien cette chose-là de ne pas. Si la psychologie, c'est expliquer aux spectateurs ou au public de cinéma, je suis d'accord avec ça. Oui. Enfin, en tout cas, c'est le contraire que je cherche pour le coup, effectivement. Le contraire d'expliquer.
Vous travaillez à la table ? Avec vos acteurs ?
Disons qu'on travaille en improvisation. Et donc, pour qu'une improvisation ait du sens, on échange beaucoup avant. On a pu avoir le scénario de stage et puis échanger, à la table, comme on dit, c'est-à-dire réfléchir comme ça sur des conduites humaines. Mais après, le travail se fait plutôt chez eux, seuls, en dehors du plateau.
Lucille Comeau.
À propos des Nuits Blanches, qui est donc une nouvelle de Dostoïevski, elle a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques. Il y a eu Visconti et puis Bresson. J'imagine que ce sont des films que vous avez vus. Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Eh bien, la vérité, c'est que c'est Paul les revoyants qui m'ont donné envie d'acheter la nouvelle que je ne connaissais pas. Alors, je connais vraiment très très bien Dostoïevski. Je n'avais jamais lu Nuits Blanches. Donc, j'ai acheté le livre de poche dans lequel il y avait aussi les Carnets du sous-sol. Et c'est la lecture concomitante de ces deux nouvelles qui m'ont donné envie de faire le film, parce que je ne peux pas me mesurer à Bresson ni Visconti, ça serait vraiment outrecuidant. En revanche, je voyais que j'avais une toute autre lecture de la nouvelle. Il est évident que quand Visconti engage Jean Marais, il est obligé de le montrer.
Ouais.
Parce que moi, je ne le montre pas. Pour moi, il n'existe pas, cet homme. Et cette femme n'existe pas. Mais j'espère, vu la réaction des spectateurs, qu'il y a une lecture un peu banale, quotidienne, qui est un homme qui rencontre une femme, etc. Pour moi, dans le film, il y a ce que j'appelle les cailloux du petit poussé, qui peuvent permettre de lire ma conception de la nouvelle.
Le décor que vous avez choisi décale totalement le côté âme russe, puisque vous avez tourné dans un port du sud de la France, à Sainte-Maxime. Qu'est-ce que ce décor-là, maritime, qui est très lumineux la journée, vous permettait de faire par rapport donc, à la conception de cette nouvelle de Dostoïevski ?
Alors, ce qui m'a entraîné à prendre ce décor, c'est le béton. Et cette espèce de béton vertical avec des rainures verticales derrière les comédiens. D'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a la mer. Et bon, la mer, elle n'y est pas chez Dostoïevski, n'y est pas chez Visconti, n'y est pas chez Bresson, c'est la Seine. Et moi, c'est la Méditerranée. Je suis méditerranéen, 100%, et j'avais envie de mettre un peu en exergue la Méditerranée, essentiellement pour son bruit, puisqu'on la voit très peu. Dans le noir, on la devine, mais on ne la voit pas. Les scènes de jour, on peut la voir, effectivement, mais très rapidement, le panoramique nous entraîne vers une Méditerranée orangée et voire rouge, c'est-à-dire au coucher de soleil, qui va nous emmener à la nuit.
Lucille ?
Vous aviez demandé à votre acteur, donc Pascal Cerveau, de regarder un film de Max Ophüls, qui est Madame 2, et à Astrid Adverbe, vous lui avez demandé de regarder quoi, vous qui aimez tant les actrices ? Vous lui aviez donné des actrices en référence ?
Non, pas du tout. J'ai demandé à Pascal Cerveau de revoir Madame 2 parce qu'Ophüls avait dit à Darieux « Il faut que tu sois à la fois présente et absente ». Et pour moi, c'était très important que Fédor, donc, Et Fédor, c'est pas par hasard, hein, c'est le prénom de Dostoïevski, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Au-delà de Nuit Blanche, je voulais faire un portrait de Dostoïevski. Il y a des phrases de La Souvenir de la Maison des Morts, il y a une phrase de L'Idiot, etc. Il y en a une aussi, je crois, de Crime et Châtiment. Et il fallait donc qu'il soit dans cet état d'esprit de presque jamais regarder sa créature. Et dans le film, il y a très peu de moments où il regarde Astrid. Il est en parallèle un peu. Et quand il y a même un moment où son regard croise la caméra pour indiquer que il a le pouvoir. Et la première scène, effectivement, c'est plutôt le sens de dire « je donne le pouvoir à Fédor », entre parenthèses, Dostoïevski. C'est pourquoi, contrairement à la plupart de mes films, il y a très 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 peu de mouvements d'appareil.
C'est le 10e opus d'une série que vous avez intitulée « Antidogma », que vous avez commencé il y a quelques années. Contre quel cinéma vous travaillez aujourd'hui, puisque manifestement vous vous positionnez contre un cinéma, contre une période?
Au départ, effectivement, c'était un peu bécasse. Antidogma était contre le dogma nordique, que je trouvais absolument bidon, qui n'a jamais été respecté. Quand on a 100 caméras pour filmer une scène, on ne peut pas parler de dogma.
Vous pensez à Lars von Trier.
Exactement. Et puis, il se trouve que j'ai détesté Festen. J'ai trouvé que c'était un film. Enfin bon, moi, passons. mais après, je me suis rendu compte que la vérité de anti-dogma, c'était contre tout dogme. C'est-à-dire la liberté. On avait parlé avec Jean Eustache à un moment donné. Il m'avait dit un jour, il ne faut plus faire de travelling arrière. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas très bien, parce qu'un plan fixe, c'est un effet cinéma aussi. Et il avait été un peu surpris, quoi. Il avait réfléchi beaucoup à ça, je pense.
Je vois que ça vous fait sourire, Julie Duclos, vous qui avez travaillé justement sur le cinéma de Jean Eustache.
Bah, ce qui me fait sourire, ce qui m'émeut simplement, c'est d'entendre quelqu'un qui a évoqué des questions comme ça avec Eustache. C'est ça qui me fait sourire.
On n'a pas évoqué que ça, vous savez.
Oui, j'imagine bien.
Je vais vous dire une chose, on s'est rencontrés au studio Parnasse. Et comme les débats se terminaient, après les vrais débats, il y avait d'autres débats qui se terminaient vers 5-6 heures du matin. Il habitait le 18e, moi j'habitais à côté du studio Parnasse. Il venait coucher à la maison, mais on ne dormait pas. On parlait, on n'a pas arrêté de parler.
Vous aviez des sujets de désaccord avec Eustache ?
À l'époque, non.
Maintenant ?
Oui.
À quel titre ?
Eh bien, il s'est trouvé que Jean Dreyfieschi et lui, qui étaient mes meilleurs amis, ne m'ont pas parlé à la sortie des Russes du Diable, ce que j'ai trouvé un peu violent. Mais c'était leur droit de ne pas aimer, mais c'était leur devoir de me le dire.
Lucille.
En 76, vous aviez fondé une maison de production qui est devenue une école esthétique dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelle Diagonale. Comment est-ce que se situer à l'époque par rapport à la Nouvelle Vague et par rapport à d'autres initiatives du genre, comme par exemple les films du Losange de Schroeder et Romer, Paul Vecchiali?
Ça fait deux questions. Hein.
C'est la spécialiste.
Alors, par rapport à la Nouvelle Vague, je pense que, personnellement, moi j'ai toujours été, comme vous l'avez dit très justement, le cœur dans les années 30, et le cœur dans les années 30, eh bien, je voulais qu'il reste, quoi. Alors, il y a, il me semble, dans la Nouvelle Vague, une forme de cérébralité qui est justifiée et qui est admirablement exploitée, mais que, personnellement, je n'entendais pas partager. Donc, nous avons, et les gens de Diagonale m'ont suivi sur ce plan, parce que nous avions ensemble, non pas des goûts communs, mais des dégoûts communs, le naturalisme et la cérébralité. C'est un peu en cela que Diagonale représente tout ça, quoi. C'est pas... Maintenant, l'autre question, je l'avais oubliée, excusez-moi.
Dans le fonctionnement économique, par exemple, par rapport au film du Losange qui avait été créé par Barbette Schroeder et Romer, peu de temps auparavant, comment vous vous situiez ?
Bien, moi, j'ai créé deux départements, un département cinéma-télévision, un département traiteur.
Voilà, c'est ça. Et un département traiteur. Et oui, on voulait arriver à ça, c'est-à-dire.
Vous savez, mon chef.
Continuez.
Non, mon comptable, mon chef comptable. Mon chef comptable m'a dit, tu es complètement fou. Et puis un an et demi après, il m'a dit, tu es génial. Pourquoi ? C'est tout simple à comprendre. Le traiteur, on achète des produits, on les fabrique, des plats, et puis on les vend et on facture. Ce qui fait que l'argent coule de façon tout à fait normale, c'est un petit fleuve. Alors que le cinéma a des apports sporadiques. On fait un film et il rentre de l'argent. Donc on permettait, avec des apports sporadiques, on permettait de faire des investissements sur le traiteur. Et en revanche, le flux financier du traiteur permettait de ne pas faire de crédit pour faire un film. C'est tout bête. Et en plus, les TVA sont compensés directement sans qu'on demande le remboursement. Vous voyez, c'est un petit calcul. Là, il y a eu Polytechnique qui revenait, quoi.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué, Paul Vecchiali. Et voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son qui devrait faire pleurer Jean-Marc Lalanne et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Paul Vecchiali.
Parce que je pleure aussi en entendant. Et que c'est... le grand amour de ma vie, c'était Danielle Darrieux. Si j'ai fait du cinéma, c'est parce que j'ai vu Meyerling avec elle et que son regard m'a complètement troublé. Et si il y a beaucoup d'actrices dans mes films, c'est parce que, précisément, c'est une actrice qui m'a donné l'envie de faire du cinéma. Cela dit, la version qu'on entend là, c'est pas la version du film. Hein.
Non.
Parce que dans le film, je m'en souviens vraiment, image par image. C'était Retour à l'aube, d'Henri Decoin, et de 39, si ma mémoire est bonne. Et dans ce film-là, Danielle Darrieux écrase, je dirais, pardon pour la subjectivité, écrase toutes les actrices américaines. Elle a, dans ce film, quatre crises de nerfs dans un commissariat que personne ne saurait faire aussi bien.
Pour vous, Julie Duclos, est-ce qu'il y a eu une actrice ou un acteur qui a pu fonctionner comme référence ou qui vous a particulièrement marqué dans votre travail de jeune comédienne et de metteuse en scène ?
C'est toujours difficile de répondre à ces questions parce que il y a des acteurs de cinéma. Comment dire ? Il y a certains acteurs de cinéma, on pourrait dire, mais il y a aussi des rencontres. Dans ma vie, j'ai eu comme professeur Dominique Valadier pendant 3 ans au conservatoire. Rencontrer Valadier, c'est une actrice très importante pour moi et qui m'a aussi donné des outils dans mon parcours de comédienne. Ouais.
Paul Vecchiali, je vous voyais...
Ah, je trouve Dominique Valadier formidable.
Vous l'avez fait tourner ?
Non, mais c'est bon, il y a eu des projets comme ça.
Ah ouais. C'est une des femmes les plus drôles que je connaisse.
En plus.
Lucille, dernière question.
Votre premier long métrage est aujourd'hui perdu, Les Petits Drames. Quel regard vous portez sur ce film que vous n'avez, j'imagine, pas pu revoir depuis un moment ?
Alors, j'ai retrouvé, grâce à Lina, une interview que j'avais faite avec Nicole Courcelles au moment du tournage, et où il donne 4 extraits du film, ce qui m'a vraiment... J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, et ça m'a évidemment ému, mais sans plus. Je pense que le film n'était pas très bon. Il était pourtant aimé à la folie par Jean Rouch, qui m'a demandé l'autorisation de copier un de mes plans.
Qui était ? Quel plan ?
Le plan, un plan qui fait dans la gare du Nord. C'est-à-dire un plan séquence qui va d'un étage jusqu'en bas. Et qui, moi, c'était un plan où Nicole Courcelles était dans un ascenseur. Son amant avait tué une bonne femme et il la mettait dans l'ascenseur. Et au moment où il voulait rentrer, Nicole lui disait « on ne peut pas monter à 3 ». Il le repoussait. La caméra prenait la place de Nicole Courcelles et suivait sur 3 étages le comédien en train de descendre. Puis le comédien ouvrait la porte de l'ascenseur, donc face caméra, se penchait, prenait le cadavre, le chargeait, et on sortait avec lui dans la rue, et on allait jusqu'à un terrain vague où il jetait le cadavre.
Plan séquence.
Un seul plan. Et, enfin, on ne peut pas tout à fait dire plan séquence, puisque la séquence commençait avant. Mais un long plan que Jean Rouch a trouvé absolument magique, et qu'il a copié pas mal dans Gare du Nord. Et là, on Paris vu par...
Voilà. Le rendez-vous, la chronique.
Paul Vecchiali et Julie Duclos, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique de Jean-Marc Lalanne avec 2 films ce soir à son programme, 2 films américains.
Oui, je n'ai pas choisi, hein. Je les aime beaucoup tous les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout, que même ils sont extrêmement opposés. Le premier de deux, c'est un film, une sorte de série B horrifique qui s'appelle It Follows, de David Robert Mitchell, un jeune cinéaste qui est né à son deuxième film. Le premier n'avait pas été distribué en France, mais il était sorti en DVD. Et vous vous rappelez peut-être, Laurent, que j'en avais parlé dans cette émission, il s'appelait The American Myth of Sleepover. Et c'était un film assez poétique sur la tradition des soirées pyjama chez les lycéens américains dans une petite ville. Ça se référait beaucoup au cinéma de John Hughes des années 80, au comedy teenage. Et là, pour son deuxième film, il poursuit dans cette inspiration et dans sa passion pour l'adolescente, mais en hybridant ce cinéma-là avec les codes du cinéma d'épouvante. Alors le pitch fait beaucoup penser à un film de Jacques Tourneur qui s'appelle Rendez-vous avec la peur et dont je vais aussi 50. Parler dans cette émission.
C'est une sorte de rétrospective de tout ce que vous avez fait.
Et dans Rendez-vous avec la peur, le principe c'était qu'il y avait une lettre qui circulait et que les personnages essayaient de se refiler parce que le dernier qui gardait cette lettre en possession se faisait massacrer par un monstre effrayant. Donc là c'est la même chose, sauf que en lieu et place de la lettre, c'est un rapport sexuel. C'est-à-dire que le film organise une ronde de personnages, de jeunes adolescents, qui pour certains ont leur premier rapport sexuel, et un zombie qui est invisible à tous, sauf celui qui est assailli par ce zombie, vient les tuer, et il ne tue que la dernière personne de cette chaîne. C'est-à-dire que pour se débarrasser de la malédiction, il faut coucher avec quelqu'un d'autre. Ce qui donne la morale très très amusante et très perverse du film, qui est à la fois très puritaine et très libertaire. C'est-à-dire que le sexe est à la fois le mal et le remède, puisque si on couche une fois, on meurt. Mais si on couche plein de fois, du coup, on se sauve. Donc, c'est une espèce comme ça d'ode à la sexualité à partenaires multiples. Donc, c'est très amusant. Et en même temps, le film est profondément poétique, mélancolique. Il y a quelque chose d'une stylisation visuelle très, très réussie. Le film est vraiment ambient, très, très. Il y a une poésie climatique à base de nappes électro, de quelque chose de très ouaté. On a l'impression que chaque plan est plongé dans du chloroforme. Il y a quelque chose comme ça d'envapé dans le film qui le rend extrêmement beau, émouvant et poétique. Et en plus, ça se passe à Détroit, qui est donc une ville dont on sait qu'elle est totalement sinistrée. Et il y a comme ça une poésie ruiniste qui traverse le film et qui est comme un écho à la menace de fiction qui cerne ces adolescents. Il y a une menace réelle, captée de façon quasi documentaire, qui cerne l'ensemble des personnages du film, et pas seulement les adolescents.
L'autre
film de la semaine, c'est Jupiter, le destin de l'univers, du frère et de la sœur, de la fratrie Wachowski. Ce qui est marrant avec les Wachowski, c'est qu'après le triomphe mondial de Matrix et à tout l'argent qu'ils ont rapporté à la Warner, on a l'impression que depuis 10 ans, ils ne cessent de leur faire perdre. C'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés dans des blockbusters expérimentaux complètement délirants. Il y a eu Speed Racer, plus Cloud Atlas, qui était vraiment un film magnifique et vraiment très expérimental sur la conduite d'un récit. Et donc là, ce nouveau film, à la fois, c'est une tentative de revenir à la SF façon Matrix, avec beaucoup de scènes d'action, mais le film est totalement barré, totalement délirant. Le pitch, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est femme de ménage dans un hôtel et qui en bave plutôt dans la vie, c'est Mila Kunis qui est très bien dans le film, et elle découvre qu'aux yeux des habitants de Jupiter, parce qu'il y a des habitants sur Jupiter, en fait elle est la reine de l'univers. Et donc ça va bouleverser sa vie. À partir de là, il y a une déflagration de combats, de scènes d'action virevoltantes, et il y a une esthétique, vraiment, on se croirait à une Love Parade à Berlin 97, c'est-à-dire que c'est très kitsch.
Je vois même pas ce que vous voulez dire.
Une esthétique un peu drag queen, vous voyez ça?
Non.
Totalement, monsieur, je vous en prie. Je vous ai connu en 97. Donc, il y a comme ça une espèce de psychédélisme kitsch très très barré qui est extrêmement généreux, séduisant, et il y a une vraie innocence chez les Wachowski qui rend leur cinéma très attachant. Et alors, les deux films mis bout à bout, on a l'impression que chacun tire très très fort sur l'élastique du cinéma américain par les deux bouts, et que d'un côté, entre la petite série B, très elliptique, très ramassée, en pleine forme, et le grand blockbuster dispendieux et malade, ben, il y a une place à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du système pour une vraie expression d'une singularité et d'une vision d'auteur.
Paul Vicali, vous allez toujours au cinéma ?
Non, parce qu'il n'y a pas de cinéma là où j'habite, dans le midi. Enfin, s'il y a un complexe Gaumont, mais alors, bon, je passe pas les films que j'aime énormément. Mais en revanche, je vois 2-3 films par jour à la télévision. Il y a le câble qui est merveilleux, et puis Canal.
Si je vous offrais une place de cinéma pour les deux films dont Jean-Marc vient de parler, ça...
C'est-à-dire, quand on entend parler Jean-Marc, on a envie d'y aller tout de suite.
Mais après, il faut voir les films. Et là, c'est autre chose.
Ouais, d'accord, c'est peut-être pas obligé, mais c'est un passionné. Et moi, j'aime bien les gens passionnés.
Jules Duclos, vous, quel est le cinéma que vous allez voir ?
Oh non, c'est autre question, c'est trop difficile de répondre. Pareil. Quel est le cinéma que je vais voir?
Oui. Est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, cinéma d'auteur, plutôt blockbuster ou tout à la fois, comme Jean-Marc Lalanne? Ou vous n'allez pas au cinéma,
si,
comme beaucoup
si,
de gens de théâtre?
Si, je vais au cinéma, je regarde aussi beaucoup des films chez moi, parce que c'est bien, avec le vidéoprojecteur, c'est bien. Mais je vais pas tellement voir des trucs où c'est trop les films américains d'action et tout ça, mais en même temps, si c'est bien, enfin, je sais pas, j'ai vu Interstellar, ça m'a plu, des films comme ça, mais des trucs où, non, avec les bandes-annonces, où ça va vite et tout ça, non, j'aime pas tellement.
Le rendez-vous.
Esther est amoureuse de François. Pour ne pas le perdre, elle sait qu'elle doit se montrer très différente de Mathilde, être son contraire. Pas de cris, pas de jalousie. François aime Esther. Il ne pense pas qu'il y ait au monde femme qui la vaille, femme plus intelligente, plus désirable, plus amusante qu'elle. De son côté, Esther regrette souvent d'aimer François. Elle ne trouve pas que ce soit une très bonne idée. Elle rêve parfois qu'elle se désintoxique de lui.
Plateau Nouvelle Vague, il y avait presque le phrasé avec vous, Julie Duclos, comédienne, jeune metteuse en scène, fondatrice de la compagnie In Quarto. Vous signez Nos Serments en ce moment au Théâtre de la Colline à Paris, un texte écrit en collaboration avec Guy-Patrick Saint-de-Richin. En deux mots, la pièce ouvre sur une scène violente entre François, un jeune homme qui ne fait pas grand-chose dans la vie et qui est de vagues velléités d'écrivain, et son amie Mathilde, qu'il va finir par quitter avant d'emménager avec Esther. Là, ils ont une relation plutôt libre, sans cri ni jalousie, ce qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, François a rendez-vous avec une jeune infirmière polonaise, Olivia, qu'il ramène à la maison. Le texte a pour base, entre autres références, la trame narrative de La maman et la putain de Jean Eustache. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur ce corpus, on va dire, sur cette référence à la Nouvelle Vague. Avant, il y avait eu une pièce à partir de Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard.
En fait, c'était pas à partir de Masculin-Féminin. Ah, en fait, ça s'appelait Masculin-Féminin, mais pas du tout à partir du film de Godard. J'ai juste pris le titre.
C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail, dans cette esthétique du cinéma des années 60, pour qu'il fonde quand même une partie de votre mise en scène?
Non, je dirais que c'est j'adore le cinéma des années 60 et la Nouvelle Vague. Il y a une espèce de foisonnement et voilà qui me nourrit et que j'aime. Mais c'est le cinéma des années 60 n'est pas à la base de mon travail. C'est-à-dire que là, ce qui a été à la base de ce travail de Nos Serments, c'était effectivement le scénario de Stache, pas le film de Stache, le scénario, ce qui est déjà très différent.
Ouais.
Donc on est déjà plus vraiment dans du cinéma, enfin je ne sais pas comment dire, c'était les situations de vie, les personnages auxquels on s'est attaqué, autour desquels on a tourné, qu'on a déliré, prolongé, réinventé. Voilà, on est parti de là pour s'en éloigner, et c'était ce chemin-là qui nous intéressait, c'est-à-dire où ça va nous emmener. Voilà, c'est pas tout à fait le cinéma des années 60 en soi.
Non, mais pas le cinéma des années 60, mais quand même les références, même si vous ne traitez pas de masculin-féminin, vous prenez quand même le titre de Godard. Cette fois-ci, c'est le scénario de Stache. Il y a quand même quelque chose qui rattache votre théâtre à cette période du cinéma français.
Oui, et puis même, je me dis, je ne suis pas sociologue, mais c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs compagnies, je remarque, de ma génération, qui s'inspirent de films, là. Le mépris, il y a eu Scène de la vie conjugale, il y a eu Romère. Donc c'est rigolo, il doit y avoir un besoin d'aller voir, 30 ans avant nous, 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, je ne sais pas.
Lucille.
Vous vous êtes inspirée du scénario, ça on l'a bien compris, mais vous avez revu le film avec les acteurs, ou vous l'avez travaillé
Non,
l'image,
vraiment le film, enfin j'avais même dit aux acteurs, ne regardez pas le film avant de lire le scénario. Et moi, quand j'ai découvert d'abord le scénario avant de découvrir le film, donc c'était pas rien, parce que je l'ai même découvert en tant que comédienne, c'est-à-dire en le jouant, puisque c'était des cours avec Philippe Garrel au conservatoire. Donc c'est venu beaucoup plus tard de voir le film, et ça n'a jamais été une référence. Ou même si l'acteur commençait à jouer comme Jean-Pierre Léaud, je lui dis, tiens, on arrête. Et enfin, c'était pour dire que c'était pas l'enjeu, et que les corps, ce qu'impose Jean-Pierre Léaud ou Bernadette Lafont, c'était plutôt une chose, c'était pas du tout une source d'inspiration pour nous.
Alors en parlant de ce travail sur une certaine idée du cinéma français, je sais que Philippe Garrel a été votre professeur au conservatoire et qu'il avait utilisé le film de Stache, je crois, justement, pendant toute une année durant son cours sur le jeu devant la caméra. Oui. Quelle était sa méthode? Qu'est-ce que vous avez appris justement dans ce cours?
C'est ça qui était intéressant, c'était que d'abord je rencontrais le scénario de La maman et la putain. Et en même temps, je rencontrais une réflexion sur l'acteur, une façon de parler aux acteurs, une méthode, effectivement, où on avançait point par point. On pourrait dire une espèce de méthode qui vise à chercher la vérité de la présence, quelque chose comme ça. Enfin, cette idée qu'un rôle, c'est en même temps un rôle, en même temps comme un documentaire sur nous. Donc, c'est quelqu'un qui, justement, qui travaille, ce serait le contraire d'expliquer. On parlait tout à l'heure d'un jeu qui explique. Il nous disait tout le temps, fais pas la mise en scène. C'est-à-dire, cette idée-là que la caméra va capter de la présence, va capter des pensées, enfin tout un paysage comme ça qui est caché ou qui n'est même pas su de l'acteur comme ça. Et donc voilà, c'était une méthode comme ça que je rencontrais. C'était aussi très nouveau pour moi, comme actrice, qu'on me parle comme ça. Donc ça a fondé en même temps quelque chose qui m'a intéressé très fort ensuite à remettre en jeu avec les acteurs.
Vous-même, Paul Vecchielli, vous avez une méthode de travail avec les acteurs ? Quant à la direction d'acteur, vous avez peut-être
comme tout le monde, la direction d'acteur, 80% c'est le choix de l'acteur.
Ouais, c'est ce qu'on nous dit toujours, oui.
Ensuite, j'ai déjà dit, c'est une lecture à plat.
Oui, ça on a compris, sans psychologie.
Et ensuite, c'est simplement indiquer les cadences et le rythme de la parole. Et demander aux comédiens d'articuler. Parce qu'aujourd'hui, on passe son temps à dire qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit. Et ça me déplaît. Je fais une petite remarque quand même sur le cinéma des années 60. Il ne faut pas oublier que le film de stage est dans les années 70.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui,
mais en même temps, selon moi, on peut me contredire, je pense que Le Moment et la Putain est la queue de la comète Nouvelle Vague. On y retrouve tout, non, Le Moment et la Putain. On y retrouve Romère, on y retrouve Godard, on y retrouve Yvette, on retrouve tout le monde. Et après ça, c'est fini, on est passé à autre chose. Et moi, je pense que le cinéma français des années 70 est 10 fois plus important que le cinéma français des années 60.
Lucile Comeau.
Julie Duclos, vous avez travaillé aussi il y a quelques années avec un grand metteur en scène polonais qui s'appelle Krystian Lupa, qui est emblématique de tout un renouveau du théâtre dans les années 90. Il a une particularité, c'est qu'il signe tout, la mise en scène, l'adaptation souvent de textes romanesques, la musique, la scénographie. Quel était votre rôle à ses côtés ?
Oh, j'ai fait 2 stages. Il a animé 2 stages comme metteur en scène, donc j'étais comédienne. Donc c'était des périodes courtes, hein. Je n'ai pas du tout accompagné son travail sur des... J'étais pas sur les spectacles. Mais donc je l'ai découvert par de la pédagogie et c'est aussi quelqu'un qui se passionne pour le processus de l'acteur, sauf qu'on est au théâtre, on n'est pas au cinéma. Mais il y a vraiment une espèce de pont, en fait, entre Garrel et Lupa, je trouve, pas dans la méthode, mais dans sans doute quelque chose qu'ils essaient de capter au résultat d'effet de réel et de réalité d'un acteur là, ici, maintenant. Donc au résultat, je trouve qu'ils sont assez cousins. Mais effectivement, du coup, il a toute une méthode aussi, qui vient de l'Est. Hein. Moi, j'avais jamais rencontré ça aussi, c'était très nouveau. Quand on élève au conservatoire, c'est pas du tout des pratiques d'improvisation. On parle pas de personnage, puis quand on entend personnage, on rigole parce que faut aller en Russie pour comprendre ce que ça veut dire, enfin tel qu'ils l'entendent eux. Donc toute une pratique, donc notamment d'improvisation. Il fait beaucoup écrire les acteurs, ce qu'il appelle des monologues intérieurs. Donc finalement ça rejoint Garrel parce que c'est bien cette histoire comme de développer des pensées, cette histoire d'avoir un paysage et que ce sera plus important ou autant important que tout ce qui sera dit. Et voilà, qui propulse l'acteur dans un état de jeu où la question de jouer ne se pose même plus. Enfin, au final, ça produit quelque chose comme ça.
Paul Vecchielli, je sais que vous avez signé quelques mises en scène. Qu'est-ce que le cinéaste que vous êtes trouvé au théâtre ?
Pas tellement de différence. J'ai dit tout à l'heure, j'ai refusé le travail à la table.
Ouais.
Et je me souviens que Dominique Constanza, qui jouait la Parisienne, au Français, évidemment, on n'avait pas du tout la même opinion que moi. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses ? J'ai dit, écoute, pour moi, au théâtre, le sentiment, c'est dans les jambes. Alors elle avait été un peu surprise de ça, mais en fait, au bout de quelques répétitions, elle m'a dit « j'ai tout compris ».
Et ça voulait dire quoi ?
Ça veut dire qu'on n'a pas à réfléchir sur les choses, c'est qu'il y a un mouvement à faire et que ce mouvement-là est indicateur du sentiment du personnage. C'est-à-dire, on peut pas, si on dit une phrase en marchant lentement, et la même phrase en courant, c'est pas la même.
Lucile ?
Il y a 2 statues de paroles dans la pièce Nos Serments qui correspondent à 2 espaces. Il y a la scène et puis il y a l'écran, puisque vous utilisez à plusieurs reprises la vidéo. Julie Duclos, on y voit par exemple François courir dans une rue, on y voit Olivia se démaquiller dans sa petite chambre à l'hôpital, ou encore un dialogue final entre François et Olivia dans un café. Qu'est-ce que vous permet ce travail à la vidéo sur scène ?
Ce qui m'intéresse, c'est le va-et-vient, c'est le rapport des deux, c'est les effets de montage que ça peut créer entre une vidéo en direct sur un plateau en même temps qu'il se passe quelque chose au plateau, qu'est-ce que ça raconte ? Ou parfois d'avoir simplement que de la vidéo ou que du plateau, c'est-à-dire que tout d'un coup on passe d'une expérience de spectateur de cinéma, parce que je tenais à avoir vraiment des images de cinéma, ou de spectateur de théâtre. Donc c'est ces jeux-là, et en même temps j'en avais besoin aussi parce que, puisque l'intérieur est un appartement, enfin tout se passe à l'intérieur, j'avais besoin aussi de cette respiration, voilà, de l'effet du dehors sur le dedans, et ça permet aussi des ellipses, enfin ça permet d'amener un ailleurs, donc ça nourrit le plateau autrement, et puis le plateau nourrit les vidéos, enfin voilà, c'est cette espèce de va-et-vient.
Tout à l'heure, Paul Vicelli a choisi un son de Daniel Darieux. Voici le son que vous nous avez apporté, Julie Duclos. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Identification.
Moi, j'ai des oiseaux dans tous mes films, ouais. Alors.
Eh bien, c'est un film de Paul Vicelli. Non,
non, les oiseaux, c'est dans Les Oiseaux d'Hitchcock.
Oui, oui,
c'est assez étonnant,
ça, oui.
D'écouter là, vraiment, de n'avoir que le son, même si c'est ce que j'ai fait chez moi en choisissant l'extrait, un peu intuitivement. Mais oui, bah, comme c'était l'idée d'un son qui nous a marqué, je me suis dit, bon, alors quelque chose qui m'a marqué, ça renvoie aux premières fois. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'eux, ou je sais pas quoi. Et donc je repensais, parce que finalement Les Oiseaux d'Hitchcock que m'a montré mon père quand j'étais toute jeune, et qu'il a fallu arrêter parce que c'était trop, quoi, et j'avais trop peur, et c'était le moment en fait où il a fallu arrêter là, ce son-là, et j'ai confondu, c'est-à-dire que là j'ai regardé pour chercher un son et j'ai confondu, je pensais qu'il avait fallu arrêter le film au moment où tous les moineaux entre dans la maison. Et en fait, il y a une deuxième attaque plus tard, qui est celle-là, où en fait, on ne voit pas les oiseaux. Simplement, on entend ça. Déjà, quand on... c'est prodigieux, parce qu'on reconnaît à peine des oiseaux. Mais c'est finalement, j'ai trouvé ça étonnant de me rendre compte que c'est un moment où il y a simplement les acteurs comme ça dans la maison, et on ne voit rien des oiseaux. C'est simplement par le son que c'est terrifiant, quoi. Enfin, voilà, ça m'a amusé.
Oui, Paul Vicelli.
Je veux juste dire une chose, c'est que l'introduction de l'image au théâtre, je suis le premier à l'avoir fait. Avec Revoir la mer de Jean-Pierre Thibaudin. Et de mon temps, il n'y avait pas de vidéo, on était obligé de faire un film en 16 mm. Ce qui fait que le film de 16 mm, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc les acteurs étaient complètement au garde à vous devant le rythme. Ils ne pouvaient pas se planter d'un quart de seconde. Il y avait sans arrêt des par exemple, il y avait Surgère à un moment donné qui était qui était sur l'écran en train de dire au revoir à ses enfants, qui prenait le train s'en allait, et sur scène Surgère levait le bras comme pour saluer ses enfants, puis le bras d'Hélène Surgère dans l'écran tombait, et celui qui était sur l'écran, sur la scène, attendait un moment et tombait beaucoup plus doucement. Donc il y avait un travail, si je peux me permettre, il y a un autre moment, pendant que ses enfants parlaient sur la scène, il y avait un autobus qui faisait un trajet énorme et descendait à la fin Hélène Surgère avec un petit bout d'herbe dans un truc, un foulard, une petite sacoche. Et à la fin du dialogue des enfants, elle entrait sur scène raccord avec le foulard, le truc. Oui. C'était hyper compliqué à faire, mais c'était amusant.
Dernière question, Lucille.
Vers la fin du spectacle, on entend une chanson qui est composée pour l'occasion, interprétée par Tom Harari. Tom Harari, c'est aussi le nom d'un chef opérateur de toute une nouvelle génération du cinéma français. C'est le même ?
Oui, c'est le même, oui. C'est Tom Harari. J'ai tourné dans un court-métrage d'Hélier Cisterne, dans lequel Tom Harari chantait cette chanson. Et donc, voilà, j'adore ce film, j'adore cette chanson, et j'ai demandé à Tom de la réenregistrer de façon plus intime, quoi. Voilà, je voulais vraiment avoir le son de la guitare et sa voix pour le spectacle.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, Julie Duclos, justement, entre le cinéma de la nouvelle vague et la nouvelle génération du cinéma français ? Puisque vous faites le lien, en fait.
Bah, je crois déjà, le cinéma d'aujourd'hui a souvent besoin de faire référence au cinéma de la nouvelle vague. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des liens aussi, enfin, ou alors des volontés inconscientes, je ne sais pas, mais on voit souvent des jeux où formellement, pas un retour à ça, mais c'est comme une source d'inspiration, oui, sans doute très présente pour ma génération, là, aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nostalgique ou quoi. Ça veut dire qu'on prend et qu'on en fait des choses à nous. C'est important, je trouve.
Et demander aux comédiens d'articuler.
Merci à nos invités. Paul Vecchiali, Nuit Blanche sur la Jetée est actuellement en salle. Je rappelle que le premier temps de votre rétrospective commencera mercredi prochain et que, donc, avec les DVD et puis en salle, et que vous êtes à l'honneur des journées cinématographiques dionysiennes. Ça a commencé hier à Saint-Denis, Jules Duclos, Nos Serments, c'est au théâtre de la Colline à Paris, jusqu'au 14 février. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Connard, crétin, un sondage récent indique que ce sont les insultes les plus courantes et sans doute les plus efficaces de la langue française. Des sondages, on en trouve surtout. Ce sont des connards qui les font, ce sont des crétins qui les lisent, notamment moi.
Demain, ce sera une émission lui avec François Morel et lui avec Yann Dacosta. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Adrien Azeli, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture en SOSFES, Chronique Cinéma Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Jacques Esuber et Dali Yaha, à la réalisation Thomas Beau.
Et pour la suite, articuler.
Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
La preuve est faite, vous êtes vraiment un robot, Hippolyte. Il est 19h54, vous écoutez France Culture. Ah, c'est bien.